Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver avec la petite bande Emma Strack, Patrice Romden et Christophe Brun. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Michel. Et plaisir partagé.
Nous sommes le 18 avril. Est-ce que vous savez que demain, c'est la Sainte Emma?
Et oui.
Ah. Et voilà. Donc voilà. Nous vous le souhaitons.
Vous êtes trop fort.
Vous souhaitons une bonne fête un peu en avance. Emma, vous qui avez encore le physique d'une adolescente, et justement, vous allez nous parler de puberté.
Ouais, on l'associe en tout cas souvent à la puberté. Et pourtant, ces papules, comédons et autres pustules peuvent en effet vous gâcher la vie à l'âge adulte. On va parler acné aujourd'hui avec un petit quiz pour se remettre les idées au clair.
Patrice.
Connaissez-vous Charles VI ?
Très bien.
C'est
très
le quatrième roi de la branche de Valois dans la dynastie...
Capétienne.
Bravo. Il a régné sur la France, à cheval sur les 14 et 15e siècles, absolument. Et au fil de l'histoire, il a gagné deux surnoms. Lesquels?
Charles le Bien-Aimé, non, c'est pas lui?
Charles le Bien-Aimé, alors ça c'est rassurant. Mais
et Charles
aussi,
le Foll.
Charles le Foll. Et là...
Les auditeurs, ils flippent de se dire qu'on est tellement cultivés alors qu'on lit votre fiche.
Ouais. Alors Charles le Foll, un roi fou à la tête du pays, et bah oui, ça nous est arrivé.
Christophe.
Voyage, voyage.
On peut dire que vous avez de la suite dans les idées parce que vous nous en aviez parlé.
La semaine dernière, c'est une magnifique version de Voyage Voyage de Desireless, interprétée par cette jeune artiste qui s'appelle Lisa Dan. Je vous conseille d'écouter cette gamine. Elle reprend à sa façon plein de titres. On va s'aimer par exemple de Montagnier.
Ah, ça, c'est
génial. Voilà, écoutez ça, c'est top. Alors, le voyage sera notre thème du jour. Plus exactement, ce voyage intérieur que des chercheurs ont identifié chez les sportifs quand ils se sentent bien, que la route défile sous leurs pieds, qu'ils se sentent invincibles. Ils appellent ça le flow, F-L-O-W. Je vous explique tout dans quelques minutes. En attendant, Pascal.
Voyage, voyage.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors Emma, on va parler donc d'un souci de peau qui n'est pas grave, hein, tant pas théoriquement, mais qui peut quand même empoisonner la vie et qui a tendance à s'aggraver avec le port du masque.
Il s'agit de l'acné qui concerne alors très largement les ados, puisque 80% d'entre eux sont touchés, mais qui peut perdurer à l'âge adulte, notamment chez les femmes, et qui pèse lourd sur le moral et l'estime de soi.
Ouais, 80% des ados, ouais. Moi je suis passé à côté.
Ouais.
Alors. Je fais partie des 20%.
Moi je ne me suis jamais arrêtée.
Ah oui ? C'est vrai ? Alors on rappelle quand même de quoi il s'agit. L'acné, c'est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. Il faut savoir qu'à la racine de chaque poil, il y a une glande sébacée qui sécrète, comme son nom l'indique, du sébum, un film gras et normalement fluide, mais quand il est trop épais ou qu'il est produit en trop grande quantité, bah, il y a une sorte de bouchon qui se forme. C'est là que les symptômes vont survenir.
Et alors là, l'acné, c'est carrément un inventaire à l'après-vert. Hein. Les comédons, qu'on appelle aussi les points noirs, les kystes, les nodules, quand ça forme une bosse douloureuse, la papule, quand le bouton est rouge et inflammatoire, et la pustule, quand il est blanc. Sachant que tout ce petit monde peut cohabiter sur un même visage, c'est la zone la plus touchée, le visage, même si on peut développer de l'acné sur le dos et dans le cou.
Et si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, c'est justement ce port du masque.
Ouais, chez certains, le masque a tendance à empirer les choses, notamment chez les collégiens et lycéens qui sont amenés à le porter toute la journée. À ça, deux explications, le frottement et la chaleur permanente.
Alors, quand on a de l'acné, on consulte, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas un traitement standard, hein, c'est un traitement qui sera adapté à chacun. Mais avant ça, je suis sûr que vous avez quelques conseils à nous donner, surtout si vous connaissez le problème.
Oui, alors je suis quand même allée chercher les conseils d'une professionnelle, le professeur Marie Bello-Barry, qui est chef du service de dermatologie au CHU de Bordeaux et ancienne présidente de la Société française de dermatologie. Alors, pour cette histoire de masque, pas question de le retirer évidemment en journée, mais le soir, il s'agit de bien hydrater la peau parce que ça va produire comme une sorte de barrière de protection qui restera efficace la journée d'après. D'autres conseils qui valent pour tout le monde, quand on a une peau à tendance acnéique, il faut mieux éviter de la décaper avec des lotions détergentes genre gommage, parce qu'en réalité c'est contre-productif et ça a tendance à aggraver l'effet. Donc l'idéal c'est d'appliquer une crème agréable, pas trop épaisse chaque jour et de ne pas fumer aussi.
Et puis les soins en salon d'esthétique, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Eh ben c'est pas top parce que justement ils reposent souvent sur un gommage. Les esthéticiennes n'ont pas le droit d'ouvrir la glande pour nettoyer la peau. Seuls les dermatos, les médecins peuvent faire ça. Donc on évite les gommages et avec l'arrivée des beaux jours, on se méfie du soleil qui est un faux ami, comme me disait Marie Bello-Barry. Parce qu'il sèche le bouton, donc en apparence c'est mieux, mais il favorise la rétention sébacée, donc finalement le problème va ressurgir de plus belle un peu plus tard.
Bah, on n'a pas un petit quiz aujourd'hui ?
Ben si, c'est maintenant. Ah on ben commence voilà. maintenant, Allez, on voilà. commence tout de suite. L'alimentation joue un rôle sur la santé de la peau, c'est vrai ou c'est faux ?
Moi je dirais
bien
oui.
Bien sûr, bien sûr.
Oui, bah oui, oui. parce qu'en plus la peau elle recrache tout, tout ce qu'on a à l'intérieur.
Alors si je m'en réfère aux idées reçues concernant le chocolat et la charcuterie, c'est à ça que vous pensiez ou pas ?
Ouais.
Et ben ça c'est plutôt faux, dans le sens où c'est pas avéré en tout cas. En revanche, il a été montré, c'est toujours ce que me disait le docteur Marie Bello-Barry, il a été montré qu'une grande consommation de lait pouvait favoriser l'acné, tout comme la prise de compléments alimentaires, notamment pour doper les performances sportives.
Donc c'est bien ce que j'avais dit, c'est faux.
Voilà. Un nourrisson peut avoir de l'acné, vrai ou faux ?
Un nourrisson ?
Un tout petit bébé.
Oui, l'acné juvénile.
Eh ouais.
Juvénile,
et même du nourrisson.
D'accord, ah oui d'accord, bon.
Ouais.
Moi je pensais que ça allait démarrer plus tard, mais...
Eh bien, alors, ça dure pas longtemps, ça concerne quand même un nourrisson sur cinq dans son premier mois de vie, sur le visage, et ça disparaît généralement spontanément dans les semaines qui suivent. Est-ce que vous savez, c'est ma dernière question, quelle est l'origine du mot acné ?
Acné,
ça vient du latin,
là, ouais.
Du grec. Acné rhum, acné
grec,
du grec,
oui, acné du grec.
Rare.
Acné rare. On a dit qu'on ne le contrariait pas, on a dit. Hein.
Ouais.
Cherchez pas plus loin parce qu'on le doit à une erreur de copiste qui avait écrit acné à la place de efflorescence. Alors là, on dirait que c'est n'importe quoi, mais en grec, ça se ressemble. Ah oui, et donc, c'est resté dans le langage médical.
D'accord. Magnifique.
Merci Emma pour ces explications. Docteur Delphine Saada, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes dermatologue à Paris. Alors, vous avez entendu Emma qui nous a parlé de l'acné. Moi, je voulais vous avoir en ligne pour parler des hommes et de leur peau. Pendant très longtemps, on a dit que les hommes ne s'intéressaient pas à leur peau, ne mettaient pas de produits cosmétiques. Et puis finalement, on a l'impression que ça change un peu. Est-ce que vous le constatez aussi ?
Oui, c'est vrai, exactement. Les hommes commencent à s'intéresser à leur peau, pas forcément dans l'acné. À tout âge, les ados en prennent un peu plus soin et les jeunes adultes aussi.
Et normalement, je pense notamment à des gens qui vivent en ville comme nous, qui sont en deux roues toute la journée, il suffit de se passer un petit coton humide sur la peau le soir pour voir tout ce qu'il y a sur la peau et qu'il faudrait nettoyer, qu'on ne fait pas. Il faudrait prendre quoi comme produit quand on est un homme et qu'on veut faire un petit peu attention ? Est-ce qu'on peut prendre les produits de sa femme ou est-ce qu'il faut prendre des produits spécifiques qui sont vendus dans le commerce ?
Oui, des bons nettoyages de peau, ce que disait votre animatrice tout à l'heure est tout à fait vrai. On revient un peu sur l'utilisation des eaux micellaires parce qu'elles sont extrêmement décapantes. Mais peut-être que pour le coup, pour la peau d'un homme, ça peut s'adapter. Et un homme a tout à fait le droit d'utiliser un petit gel moussant nettoyant sous la douche ou une eau micellaire ayant la peau plus épaisse qu'une femme. Il va peut-être un peu mieux le tolérer. Ouais.
Christophe,
et on a déjà dit dans cette émission, on avait parlé du fait de ne pas se savonner trop souvent. On a même donné l'exemple de gens qui ne se lavaient pas tous les jours, entre guillemets, voilà, mais le visage et d'autres parties du corps, oui, évidemment. Est-ce que quand on a de l'acné, il faut moins se laver ?
Non, on se lave exactement pareil, il faut utiliser juste des produits un tout petit peu plus adaptés. Maintenant, pas mal de marques du commerce permettent d'utiliser soit des huiles lavantes qui sont un petit peu plus relipidantes que des eaux micellaires ou des gels moussants pour les ados qui vont préférer, les ados hommes justement peut-être qui vont préférer utiliser un gel moussant sous la douche pour la praticité. Mais les peaux acnéiques doivent bien au contraire se laver le visage.
Donc l'idée pour ceux qui ne sont pas fans de crème après rasage ou autre, c'est de se prendre un gel moussant avec lequel on se lave le visage sous la douche, c'est ça ?
Exactement, il y a des produits qui permettent ça. Ce que je vous dis, c'est peut-être un tout petit peu plus adapté aux hommes et les femmes, vu qu'elles ont des rituels de maquillage, elles ont aussi un rituel de démaquillage qui leur permet d'utiliser un plus large spectre de produits. Mais par exemple, nous, c'est ce qu'on conseille aux jeunes hommes qui veulent avoir un geste un peu deux en un, une douche, et qui peuvent se laver le visage directement avec un gel adapté au visage, bien sûr.
Eh bien, je vais faire ça, moi. Alors, Emma, enfin, tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de le dire.
Non, Voilà. Mais merci de partager ça avec nous. On les a vus hein, fleurir depuis quelques années, les lignes de produits cosmétiques pour hommes. Est-ce que ça a du sens qu'il y ait des lignes vraiment spécifiquement pour les hommes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une peau à ce point différente ou est-ce que finalement c'est du marketing?
Non, il y a une grande part de marketing quand même, parce qu'on sait très bien que, sans citer de marque, un gel moussant d'une grande marque de parapharmacie va très très bien faire le job, et il y a une idée marketing qui peut attirer les hommes pour l'utilisation de ce type de produit. Mais en réalité, d'un point de vue purement scientifique et médical, il n'y a pas un intérêt majeur.
Merci beaucoup, docteur Delphine Saada, dermatologue à Paris. On vous prendra sûrement en ligne, si vous le voulez bien, dans quelques semaines, pour préparer les vacances d'été qui, j'espère, permettront à tout le monde d'aller à la plage, de faire un peu de protection solaire, parce qu'on a besoin sans arrêt, de faire passer le message. Et d'ailleurs, même quand il fait beau au mois d'avril, il faut se protéger.
Exactement.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Christophe, un petit mot.
Oui, j'ai un petit mot. Le petit enfant chez le docteur lui dit « Où tu as mal ?» Et l'enfant, en montrant son oreille droite, dit au docteur « Aux oreilles ». Alors le docteur lui dit « Aux oreilles droites et aux oreilles gauches ?» Et le petit dit « Oui, à les quatre.
» Il est gentil. Emma, un dernier petit mot avant la pause.
Quand on a deux mains gauches dans l'expression française, que dit-on en Angleterre?
Ça, je ne sais pas ce qu'on dit, mais vous savez comment on reconnaît la main droite de la main gauche?
Vous en foutez,
vous posez les deux mains à plat sur la table et la main droite, c'est celle dans laquelle le pouce est à gauche.
Ok. Ouais. Et sinon, en termes de main gauche, non, je repasserai.
Avoir deux pieds gauches.
Non, on dit que ce ne sont que des puces. Et au Canada, qu'est-ce qu'on dit? Ça va vous plaire.
Oh, vas-y, à moi, je ne rends pas plus.
Qu'on a les mains pleines de puces.
Ah oui, on a les mains pleines de puces.
J'ai appris ça dans le formidable ouvrage intitulé Que votre moustache pousse comme une broussaille. Et quand les bras nous en tombent, qu'est-ce qui arrive aux Allemands? Ils en restent tout aplatis.
Oh là, mais vous avez, la dernière fois c'était les morpions, là c'est, vous avez des bouquins, vous lisez la grande littérature. Vous. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 et on va parler de ce qu'on appelait à l'époque la folie, notamment celle de Charles VI avec Patrice Romney.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la partie 2 de l'émission, j'allais dire la partie culture,
certes,
intellectuelle.
Oh.
Si, Patrice. Tout le monde vous connaît comme l'intellectuel de la bande, d'ailleurs.
Au pays des aveugles, etc.
Voilà, donc ce matin, nous parlons de folie et nous le faisons à travers les incartades de Charles VI.
Eh bien oui, il faut le savoir, notre pays a été dirigé par un fou. Un fou précoce, hein, puisque Charles VI accède au trône à l'âge de 6 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'élection, on prenait ce qui venait dans l'ordre où ça arrivait.
Alors, à 6 ans, bien sûr, on imagine qu'il ne peut pas régner. Il y aura donc une régence jusqu'à la majorité du souverain auquel échoit enfin le pouvoir, et tout est réuni pour que le royaume de France prospère et dans le calme.
Et sauf que l'histoire a horreur du calme. Le 5 août 1392, Charles VI est en route pour une de ses expéditions punitive dont nos têtes couronnées avaient l'obsession. Et alors, à hauteur du Mans, au sortir de la forêt, sans crier gare, hein, sans raison, le roi brandit son épée et se jette sur son frère. Alors on parvient à le maîtriser, mais quand même, au passage, sa majesté a massacré 4 membres de sa propre troupe, sans raison.
Alors la bonne nouvelle, c'est que Charles VI n'est pas fou, comme on disait à l'époque, à plein temps. La mauvaise, c'est que ça le rend imprévisible et qu'il est quand même un peu difficile de régner en alternant les périodes de folie et de sagesse.
Oui, un jour il pète la forme et puis le lendemain, il est convaincu qu'il est fait de verre, par exemple. Et comme il a peur de se briser, il remplit le char qu'il transporte de coussins. Il en met partout. La cour désemparée cherche des solutions. Au chevet du roi, les médecins piétinent, les intellectuels s'émeuvent, le clergé crie au blasphème. On va même chercher des sorciers. Et comme les sorciers ne font pas de miracles, bien on s'en débarrasse, mais physiquement, hein, pour cause d'incompétence. On les tue.
Et la folie du roi va s'aggraver après le bal des Ardents. Alors ça, c'est un épisode de sinistre mémoire qui se joue à l'occasion d'un bal masqué. Charles VI et quelques-uns de ses amis se déguisent en sauvages. Ils avaient des loisirs quand même un petit peu spéciaux à l'époque. Hein.
Alors les convives s'enduisent le corps d'étoupe et de pois, une matière collante constituée de résine et de goudron. Ils rajoutent quelques plumes pour compléter la panoplie. Alors pour les féliciter de leur trouvaille, à un moment, il y a le duc d'Orléans qui s'approche d'eux. Il a une torche à la main. Donc étoupe plus pois plus plume plus flamme égale catastrophe. Hein. Charles VI et ses amis sont transformés en torches vivantes. Le roi s'en sort, mais quatre de ses amis périssent dans d'atroces souffrances.
Et évidemment, cette tragédie qu'on a appelée le bal des Ardents affaiblit un peu plus Charles VI, qui n'est pas pour autant déposé, comme on dit. Il continue à régner, mais un peu tant bien que mal.
Tant bien que mal, c'est-à-dire qu'entre deux crises de folie où il perd connaissance. Hein. Alors, évidemment, autour de lui, on en profite. Hein, on se dispute le pouvoir. Et la plus dédoyale de toutes, c'est son épouse, Isabeau de Bavière. Elle pactise avec l'ennemi anglais, ce qui aboutit à la signature du funeste traité de Troyes, au terme duquel Henri V, roi d'Angleterre, se fait couronner roi de France. Alors le traité sera invalidé, mais il s'en est fallu de peu quand même pour que la folie royale fasse perdre à la France sa souveraineté. Et heureusement, par la suite, Jeanne d'Arc est arrivée dans la foulée. Elle a contribué à mettre les Anglais dehors, comme on le sait tous.
Merci beaucoup, Patrice. On va rester dans le domaine des maladies dont on parlait en citant la folie. Vous savez que la folie, aujourd'hui, on ne parle plus de fou, mais les maladies du cerveau à l'époque où on ne pouvait pas faire de diagnostic, on ne savait pas trop ce que les gens avaient. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. On parlait beaucoup de cette folie. Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Alors, ça n'est pas ce qu'avait Charles VI, bien évidemment, et dont Patrice nous a parlé, mais avant qu'on puisse mettre un nom sur la maladie d'Alzheimer, on parlait de folie, de démence sénile.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était lié à l'âge, on pensait que c'était un vieillissement on va dire quasi normal d'évoluer vers cette démence que l'on disait sénile à l'époque et dont on sait aujourd'hui que c'est une vraie maladie.
La semaine dernière, on a parlé de la maladie de Parkinson avec le docteur Ménage, qui est neurologue et qui nous disait qu'on diagnostiquait plus aujourd'hui de maladies comme la maladie de Parkinson à cause du vieillissement de la population. Est-ce que c'est le même cas pour l'Alzheimer ?
Oui, le facteur de risque le plus important, eh bien, c'est notre âge dans la maladie d'Alzheimer. Plus on va vivre longtemps, ça c'est la bonne nouvelle, on vit tout plus longtemps, plus notre risque de faire une maladie d'Alzheimer augmente. Pour vous donner un exemple, à partir de 85 ans, le risque est quasiment de 30%, c'est-à-dire une femme de 85 ans sur 3 risque de faire une maladie d'Alzheimer.
Patrice.
L'Organisation mondiale de la santé dit que le nombre de cas de démence va tripler d'ici 2050. Alors on vient de parler effectivement de l'augmentation de l'espérance de vie. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Je pense aux perturbateurs endocriniens, à l'alimentation, à la pollution.
Et qu'est-ce qu'on appelle démence ?
Alors, ce qu'on appelle démence, tout d'abord, c'est un terme qu'on utilise très peu en France, parce qu'en France, le terme de démence est connoté. Il est connoté de manière très péjorative et peut abîmer l'image des patients. Donc, ce qu'on dit en France, nous, c'est maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Donc ça, c'est la même chose que ce que l'OMS appelle démence. Le chiffre actuellement dans le monde, c'est de 48 millions de personnes qui ont été diagnostiquées avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et les projections, simplement sur le simple fait du vieillissement lié à l'âge, amène en 2050 un chiffre de 150 millions de patients atteints sur la planète. Maintenant, quant aux facteurs de risque, aujourd'hui, sur les facteurs de risque environnementaux, on en a relativement peu. C'est plutôt une susceptibilité individuelle, c'est un mécanisme de vieillissement de notre cerveau qui pourrait expliquer en fait cette explosion des cas liée à l'âge.
Philippe Amouyel, on parle souvent, on entend souvent, et nous on en parle aussi, de prévention. Alors, pas forcément de prévention complète de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire comment éviter de l'avoir, mais plutôt de ralentissement, de retarder l'apparition de la maladie si elle doit arriver, notamment par des facteurs comme l'activité physique, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui dans la prévention de cette maladie ?
Alors, depuis très longtemps, on se posait la question de savoir si on pouvait ralentir, si ce n'est arrêter la maladie, mais ralentir sa progression. Et on a eu, il y a à peu près une dizaine d'années, des études qui ont montré que dans des pays extrêmement riches comme les nôtres, la France, l'Allemagne, les États-Unis, on voyait une diminution du nombre des cas de maladie d'Alzheimer. Alors, on s'est étonné en se disant « ça ne colle pas avec l'augmentation de l'âge ». En fait, ce que l'on observe, c'est un recul de l'âge de début des premiers symptômes. Et des fois, on recule tellement l'âge des premiers symptômes que finalement, on n'aura pas ces premiers symptômes qui signent la maladie et qu'on décédera avant. Donc, on a l'impression que la maladie diminue. Et donc, c'est ça la base de la prévention aujourd'hui, c'est-à-dire repousser l'âge des premiers signes pour que, socialement, bien que l'on soit porteur de la maladie, on n'en ait pas les symptômes, donc on ne soit pas diagnostiqué et qu'on n'ait pas les problèmes sociaux associés.
Et grâce à l'activité physique, à l'alimentation ?
Alors oui, il y a quatre grands facteurs là-dessus. Il y a bien sûr la stimulation cérébrale, dont on parle souvent, et pas qu'intellectuelle. On a la protection du cerveau, parce que c'est un organe fragile. Et puis, on a tout ce qui fait que notre corps fonctionne bien, fera que notre cerveau fonctionnera bien. L'activité physique, l'alimentation, le régime méditerranéen, par exemple. Le fait également de corriger les troubles que l'on a de nos sens, en particulier de la vision, mais surtout de l'ouïe, où on s'aperçoit que les gens qui ont des presbyacousies, on en a tous après 50 ans, on peut améliorer son risque en corrigeant précocement cette presbyacousie. Et enfin, l'élément le plus important et qui est un vrai problème aujourd'hui à cause de la pandémie, ce sont les relations sociales. Les relations sociales alimentent notre cerveau et on a beaucoup de craintes actuellement, que ce soit en France mais dans le monde entier, on essaie de monter des cohortes là-dessus, de l'impact de ce que sera cette privation de relations sociales qu'on aura connue pendant un an.
Merci beaucoup Philippe Amouyel. Je rappelle que vous êtes professeur en santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Merci pour ces explications. Et quand vous parlez de presbyacousie, le meilleur moyen de la traiter, et on voit que ça a un rôle dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est de porter des appareils auditifs, des prothèses, avec maintenant une prise en charge qui est quand même plus à la hauteur d'un pays développé comme le nôtre. Christophe, un petit mot avant de se quitter.
Oui, j'ai un petit mot d'une dame qui répond à la question de son médecin. Est-ce que vous prenez une contraception ? Elle dit non, je suis plus obligée de prendre la pilule depuis que j'ai eu une caricature des trompes.
Au lieu de ligature, oui. C'est ça, oui, d'accord. Alors, quand je dis quitter, c'est provisoirement, juste une petite pause. On se retrouve pour la partie 3 avec le jeu auditeur.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Retour de l'hebdo pour la partie 3. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good en kiosque actuellement, avec en couverture Soulagez vite les maux de tête et les migraines. Et vous aurez un dossier aussi sur la ménopause, bien vivre sa ménopause avant, pendant et après. Avec tout plein de réponses aux questions que vous vous posez si vous êtes dans cette période. Et les amis, c'est l'heure du jeu.
Ah, qu'est-ce qu'on gagne ?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner ?
On doit rien.
On va d'abord gagner à prendre en ligne Jonathan Gonneau. Bonjour.
Bonjour.
Jonathan, bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes aide-soignant aux urgences mains à Paris. Vous allez jouer, vous savez, vous connaissez notre jeu, on va vous poser une question, il va y avoir trois versions, il y en a deux qui sont fausses, une qui est vraie.
Oui.
Et si vous gagnez une semaine sur un bateau de location, le boat, vous partez une semaine à quatre personnes sur un bateau, donc le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Et je peux vous dire qu'en France, des canaux, il y en a plein et que ce sont des vacances absolument géniales et très zen. Donc concentrez-vous bien, Jonathan, pour gagner. Voici l'information que nous avons trouvée dans le magazine Sport et Vie, un magazine que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la médecine du sport, à l'activité physique. Figurez-vous qu'une drôle de cargaison a récemment fait le voyage entre l'hôpital de la ville anglaise de Wickford et la ville belge de Duffel, ça se trouve près d'Anvers. Dans cette cargaison, il y avait plus de 3000. Mais 3000 quoi ? 3000 quoi ? Trois versions. La version Patrice.
Alors, c'était plus de 3000 oreilles. Oui, des oreilles. Elles étaient conservées dans une cave de l'hôpital de Wickford. C'est un ORL, aujourd'hui décédé, qui avait constitué cette collection, un peu morbide, hein, il faut bien le reconnaître, à des fins qui nous échappent, entre 1950 et 1980. Mais le plus étonnant, c'est le projet de l'acheteur. Il veut utiliser le cartilage de ses oreilles pour la fabrication de prothèses. Figurez-vous.
Version Emma.
C'était pas des oreilles. C'était des testicules que contenait la cargaison. Ouais. Là encore, il s'agissait d'une collection d'un goût douteux, je vous l'accorde, qui dormait dans les réserves de l'hôpital. Et si je vous dis qu'il les a achetés, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, il s'agit d'un artiste contemporain qui a fait savoir qu'il savait déjà ce qu'il allait en faire. Alors on a hâte de savoir. Je précise que les testicules ont voyagé, comme les oreilles, par paire.
Ce qui est fou, c'est qu'ils les ont comptés quand même. Ça, c'est dingue.
Merci Emma. Version Christophe.
Alors la version de Christophe. Ce ne sont ni des oreilles, ni des testicules, mais des cerveaux qui ont traversé la mer du Nord. Ils proviennent d'une collection constituée au siècle dernier par un neurologue qui avait l'intention de les disséquer pour comprendre les causes d'affections nerveuses aussi mystérieuses que la schizophrénie, la dépression, les addictions ou encore la maladie d'Alzheimer. Avec le temps et surtout la mort du neurologue, le projet est tombé à l'eau, mais la collection de cerveaux a quand même trouvé preneur en Belgique.
Alors, Jonathan, vous avez donc trois versions, je vous les rappelle. Les oreilles, les testicules ou les cerveaux qui ont donc traversé la Manche.
C'est pas simple.
Oui. C'est pas si simple. Hein,
Non, il faut vraiment réfléchir là. Hein. Mais je dirais que c'est Christophe quand même qui m'a le plus convaincu dans son...
Donc
dans
le
son
cerveau.
Bravo. Bravo. Ah là 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 là.
Alors, quelques précisions quand même.
Oui, alors je vais rappeler quand même à Jonathan qu'il a gagné une semaine sur un bateau de location, le boat, qui en anglais signifie le bateau, qui vous permettra... qui nous permettra de voyager sur des canaux en France, en Camargue, en Bretagne, sur la Baïse en Gascogne ou sur la Saône en Bourgogne. Un beau cadeau pour 4 personnes. Alors, Christophe, des précisions.
Alors, ce sont bien des cerveaux donc, qui proviennent de la collection du neurologue John Corselis. Il a commencé sa collection en 1954 et l'a terminé en 1977. Et il y avait quand même pas moins de 3348 cerveaux accumulés. Leur intérêt est moindre aujourd'hui parce que la recherche travaille de préférence sur des cerveaux vivants, grâce aux IRM aujourd'hui. Mais tout de même, ces cerveaux pourront servir à d'autres travaux. On fait quand même savoir les acheteurs de la cargaison, figurez-vous.
Merci Christophe et bravo Jonathan.
Merci beaucoup.
Bravo, vous allez pouvoir vous balader donc sur les canaux en France grâce à The Boat.
Je vous enverrai une carte postale, merci beaucoup.
Avec un grand plaisir, merci, on est ravis de vous avoir fait gagner ce beau cadeau.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et là, on va changer de sujet puisqu'on va parler de sexualité avec notre sexologue référent, docteur Gilbert Boujaoudé. Bonjour.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
Bonjour Gilbert.
Alors, je suis encore en train de rigoler de la proposition d'Emma.
J'étais sûr qu'elle vous plairait.
Vous m'avez fait penser à Jacques Chirac qui disait « De nos jours, on grève de tout sauf de testicules par manque de donneurs.
» Alors Gilbert, on a voulu vous avoir en ligne parce que là, on va parler sérieusement de prévention des infections sexuellement transmissibles. Au moment du SIDAction, on a beaucoup parlé d'un certain relâchement, notamment parce que le Covid a masqué toute l'information sur toutes les autres maladies et notamment sur le SIDA. On ne parle plus que de Covid depuis un an et donc il y a un relâchement des moyens de prévention contre le SIDA. Est-ce que ça touche aussi toutes les maladies, toutes les infections sexuellement transmissibles ?
Oui, d'ailleurs, on observe un relâchement même par rapport au coronavirus, hein, pas que les IST. Mais c'est vrai que ça a masqué, par exemple, les informations concernant l'utilisation du préservatif, etc. Bien sûr, ça a diminué, mais surtout concernant la PrEP, le traitement de pré-exposition, comme les personnes avaient moins accès aux consultations médicales, ils pensaient que les services qui pouvaient leur procurer la PrEP, les traitements de pré-exposition pour éviter justement le VIH, étaient fermés pendant les périodes Covid où ils n'osaient pas contacter, ils pensaient que tous les hôpitaux étaient débordés. Donc effectivement, il y a eu une petite rupture sur ce plan-là. Ensuite, sur le phénomène de relâchement sur les IST, c'est quelque chose qui a commencé avant le coronavirus, c'est-à-dire depuis que le traitement VIH est devenu efficace. On rappelle quand même là que quelqu'un qui a le VIH et qui est soigné correctement, il ne transmet plus le VIH. Et donc, c'est quelque chose qui a contribué beaucoup à avoir quand même moins peur. Les traitements de pré-exposition ont fait moins peur. Donc, on voyait déjà avant le coronavirus une augmentation des autres IST, comme le chlamydia, les syphilis qui revenaient, alors qu'elles avaient bien diminué avant. Et avec le coronavirus, oui, toute l'information sur les préventions ont diminué parce que le coronavirus a mangé tous les moyens on ne parlait plus que de ça et donc ça a diminué l'information ciblée sur les IST.
Et ça a tellement diminué l'information que j'ai lu dans un sondage qui avait été publié dans le journal du dimanche il y a quelques semaines que les idées reçues reprennent du poil de la bête puisque dans la tranche d'âge 15-24 ans qui, parmi eux, on voit des jeunes qui commencent leur vie sexuelle, qui n'ont plus accès à l'information concernant les idées reçues autour du SIDA notamment. Il y avait encore, je crois, plus de 15% des jeunes qui pensaient qu'on pouvait attraper le virus du SIDA en embrassant une personne. Il y en avait 1 sur 4 qui pensaient que simplement en regardant une personne, on pouvait savoir si elle avait le SIDA. Enfin, les idées reçues remontent de façon incroyable.
Et j'ajouterais, parmi les idées reçues, certains adolescents qui pensent que la pilule protège contre le sida.
Oui, et puis il y a d'autres idées reçues qui avaient disparu, c'est vrai Michel, et qui reviennent, c'est on ne peut pas attraper le sida si on a les rapports en dehors des menstruations, des règles, enfin, plein d'idées comme ça qui sont revenues par manque d'informations, et aussi parce que l'ambiance actuelle, si vous regardez toutes les informations qu'on a sur le coronavirus, il y a beaucoup de choses contradictoires, et je trouve que ça a un peu impacté d'autres informations qui commencent à être mises en doute par les personnes, y compris sur le VIH.
Emma, une dernière question, réponse rapide.
Oui, c'est aussi une remarque et une constatation. Moi, je suis une ado des années 90, donc j'ai grandi avec les campagnes d'information sur l'importance de porter le préservatif. Là, au-delà de la pandémie, de toute façon, on ne les voit plus, ces campagnes.
Non, bien sûr. D'ailleurs, ça a été toute la subtilité et je trouve que c'est un défi pour nous, médecins, services d'information et associations et les gens qui font les publicités pour informer. C'est un vrai défi parce qu'on a tout fait pour que les personnes qui vivent avec le VIH vivent normalement et on y arrive. Une personne qui vit avec le VIH peut vivre normalement maintenant. Il a la même espérance de vie que quelqu'un qui n'a pas le VIH. Et donc, comment réussir à dédramatiser cette maladie tout en faisant peur de ne pas l'attraper? Et c'est quelque chose, c'est un véritable défi d'information qu'on doit avoir. C'est clair que avoir une maladie qui fait très peur, la prévention peut être un peu plus simple. Et donc aujourd'hui, on doit réinventer, d'ailleurs c'est un message que je lance à tous ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est on doit réadapter notre façon de communiquer, on doit s'adresser à cette génération de 15-22 ans dont parlait Michel tout à l'heure, qui est une véritable cible et qui se sent peu concernée par cette situation effectivement.
Merci beaucoup Gilbert, et bien on va leur passer un message, on leur rappelle que le meilleur moyen de prévention des infections sexuellement transmissibles, quelles qu'elles soient, c'est le port du préservatif. Merci beaucoup Gilbert Jaoudé.
Bonne journée tout le monde.
Merci sexologue et notre référent dans ce domaine. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la quatrième partie de l'émission avec Christophe qui va nous parler du flow.
Oh. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Voyage, voyage.
Michel Simès sur RTL.
Plus loin que la nuit et le jour.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo.
C'est très très beau, Christophe.
J'adore.
Vraiment très très beau. Alors, vous souhaitez nous parler du flow. Oui. Aujourd'hui, cette étrange sensation que les sportifs peuvent ressentir quand ils sont en état de grâce. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Il est tout calme. Qu'est-ce qui se passe?
Ça va pas durer. M'endormir.
Voilà. Alors on peut dire ça comme ça, mais pour le dire précisément, il faut citer le docteur Sigzent Mihaly, qui est professeur d'université aux États-Unis, qui l'a décrit pour la première fois dans les années 70. Il disait, je cite, « Les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments passifs, réceptifs et relaxants. Les meilleurs moments se produisent généralement quand le corps et l'esprit d'une personne sont poussés à leurs limites dans un effort volontaire afin d'accomplir quelque chose de difficile mais qui en vaut la peine. Le flow est un état mental optimal que l'on expérimente naturellement quand nous nous trouvons totalement absorbés par une tâche, au point d'en oublier toute notion de temps ainsi que toutes nos préoccupations. »
Alors, quelles sont les caractéristiques de cet état mental?
Alors, il a relevé 7 caractéristiques. D'abord, l'hyperconcentration sur la tâche. La deuxième, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairement définis. On sait où on va et comment il faut faire pour y aller. Une distorsion temporelle. Le temps passe vite, on peut oublier qu'on est en train de faire quelque chose. L'expérience est vécue comme purement intrinsèque. Elle est enrichissante et plaisante. C'est un équilibre aussi parfait entre le niveau de défi et nos capacités. Vous allez voir que sur le plan sportif, c'est important. Et aussi, vous n'avez plus vraiment conscience de vous-même. Et la dernière clé qu'il donnait, c'est un sentiment de contrôle absolu sur la tâche.
Alors, bien évidemment, quand on a dit tout ça, coach Cricri, on comprend qu'il y a un lien total entre le flow et la performance.
Le flow, donc F-L-O-W, bah évidemment, et encore mieux, on sait que chez les coureurs, par exemple, le flow augmente le sentiment de compétence, ce qui a pour effet d'augmenter la motivation, la confiance et les émotions positives. Pour faire simple, un coureur qui se sent compétent aura plus de chances de se sentir épanoui, sera plus efficace dans son entraînement et sera donc dans les meilleures conditions pour performer.
Alors la question, c'est comment je fais ? à titre personnel, pour me retrouver en état de flowzofine.
Alors, pour avoir bien lu les travaux de ce professeur américain, tout d'abord, il faut un équilibre total entre l'intensité de l'exercice et nos capacités. Ouais. Concrètement, pour les coureurs, par exemple, ça consiste à engager le bon niveau d'effort lors de la sortie. Si vous faites un jogging très facile alors que vous êtes plutôt en forme, vous pouvez ressentir de l'ennui parce que vos capacités dépassent largement la difficulté de la tâche. Et là, pas de flow. À l'inverse, vous faites une séance très dure alors que vous n'êtes pas au top, vous serez préoccupé, vous serez même stressé, vos sensations ne sont pas à la hauteur du niveau requis par votre séance, pas de flow non plus. En revanche, vous avez une forme correspondant totalement à l'intensité de votre séance, vous êtes là en état de vivre un super flow, vous avez une foulée qui correspond exactement à la forme à laquelle vous êtes, et c'est la recherche que font les sportifs pour arriver dans cet état de grâce qui leur permet de faire plein de choses. Voilà.
Alors évidemment, pas de secret, il faut s'entraîner pour bien se connaître, bien connaître ses capacités et savoir reproduire les efforts pour retrouver cet état de maîtrise et donc de plaisir à pratiquer votre sport. Merci coach Cricri. Vous avez un petit peu de temps pour des brèves, des mots, Patrice.
Maintenant qu'on a bien couru à jeun, on va se restaurer. C'est quoi un bon petit déjeuner pour vous? Alors je précise que c'est quelque chose qui vous apporte 20% des calories dont vous avez besoin pour réussir votre journée. Mais concrètement, vous mettez quoi là-dedans?
Dans les 20% de calories?
Moi je mets un peu de tout, moi. Un gigot de 7 heures.
Des matières grasses. Alors, des féculents.
Des protéines. Bon,
qu'est-ce qu'on boit? D'abord une boisson, café,
laitier.
Pas de jus de fruits si possible, parce que c'est très sucré.
Alors,
si on peut.
En revanche, un fruit.
Un fruit, tout à fait.
Parce qu'il y a
des fibres.
Parce qu'il y a des fibres.
Voilà. Tout à fait.
Un produit laitier et maladie. Alors, fromage blanc, yaourt, faisselle.
Non, moi j'ai dit matières grasses.
Oui.
Ça vaut pas, hein. Non, ça vaut pas.
Mais c'est quand même.
Vous êtes sympa, mais ça vaut pas.
Et puis, il manque les céréales. Donc, je récapitule. Une boisson, des céréales, pain, biscottes, et vite. Un complet, c'est mieux. Un produit laitier et un fruit. Et avec ça, vous êtes paré 20% des calories dont vous avez besoin.
Et vous éviterez comme ça le petit coup de fringale de 11h sur lequel vous précipitez sur une viennoiserie. Bien évidemment, qui n'est pas très recommandé. Emma.
Maintenant qu'on est au top du flow et qu'on sait ce qu'on prend au petit-déj et qu'on a le petit coup de pompe justement de 11h, d'où ça vient l'expression du coup de pompe? Du coup de pompe.
Pompe.
Le coup de pompe.
Le
la
coup de pompe.
La pompe, c'est la chaussure.
Ça n'a rien à voir justement.
C'est la pompe donc.
Non plus. Ça vient de l'aviation. Au début du 20e siècle, 20e. 20e siècle. Ça désignait les trous d'air, vous savez, les secousses un peu brutales quand un avion traverse une zone de turbulence. Et depuis, c'est devenu une fatigue aussi soudaine que sans explication particulière. Le coup de pompe.
Ah bah voilà, une explication.
Et moi, j'ai une phrase d'une dame qui a l'accent du sud de la France qui dit à son médecin: docteur, la prochaine fois que vous verrez mon mari, faites-lui doser ses gamma CGT.
Alors, ça demande de l'explication parce que vous avez sur vos analyses sanguines les gamma GT qui sont, vous verrez sur une ligne, mais ça n'a rien à voir avec les gamma CGT, bien évidemment. Patrice, un petit mot?
Ouais. À l'été, c'est fatigant. Un faux ou un tox?
Et à l'hiver?
Pour le père ou pour la mère?
À l'été, c'est fatigant. Oui, ouais. c'est fatigant pour la femme parce que c'est une dépense d'énergie de la part de l'organisme, mais en même temps, c'est apaisant.
Ouais, bien vous écouter parler allaitement. C'est un témoignage.
Vous sentez que j'ai vécu avec ma maman.
Il faut, en tout cas.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
J'ai dit que c'était faux. Qui certifie la différence de sommeil entre une femme qui allait et une femme qui fonctionne au biberon et quasi inexistante. Ce qui fatigue, ce sont les bouleversements liés à l'arrivée du bébé dans le foyer, mais pas l'allaitement. Voilà ce que dit la Société française de pédiatrie.
Merci.
Battle entre Emma et la Société française de pédiatrie.
Ouais, moi je suis un peu du côté d'Emma aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci chers auditeurs de nous suivre avec autant de fidélité tous les dimanches matin. Et n'oubliez pas, avec Ben, l'oncle sourd. Good life, full of fun, seems to be the idea. Yeah, the good life. C'est pas drôle tous les jours, mais quand même, c'est la belle vie, surtout avec nous. Donc on se retrouve dimanche prochain à 9h15 sur RTL. Merci les amis et passez une bonne semaine.
Très bon dimanche à vous.
À dimanche.
À la semaine prochaine.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.